Je vais laisser la parole à Étienne Guillaume, donc qui est directeur de la chasse et de la forêt sur le domaine national de Champagne.
Au nom du directeur général et commissaire à l'aménagement du domaine national de Chambord, je suis heureux de vous accueillir et d'introduire ce colloque scientifique international, l'année où nous célébrons le 500e anniversaire de l'apport de Léonard de Vinci, qui a inspiré l'architecture du monument et le début de la construction du château par le roi François Ier. La forêt de Chambord, dont j'ai l'honneur de m'occuper depuis plus de 5 ans, est singulière à tout point de vue, puisqu'elle est classée monument historique, réserve nationale de chasse et de faune sauvage, patrimoine de l'UNESCO, site classé et zone Natura 2000. Dans le cadre de son projet d'établissement, le domaine a décidé de refondre sa réserve en développant sa vocation de territoire d'études scientifiques à l'échelle européenne. Un premier programme pluridisciplinaire d'une durée de 10 ans, voulu par le président Gérard Larcher en 2013, a été mis en œuvre avec deux partenaires principaux que sont la Fondation François Sommer et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il porte principalement sur la dynamique démographique des ongulés sauvages, leur état sanitaire et l'effet de la chasse sur la maîtrise de ces populations. Dans cet élan, avec le soutien financier de la région Centre-Val de Loire et de l'Union européenne, nous avons accueilli diverses études à partir de 2015 du programme Intelligence des patrimoines, dont le programme COSTO. Ce programme, dont il va être question pendant ce colloque, a pu se greffer sur les actions menées depuis 6 ans, à l'instar des panotages, qui sont des captures d'animaux vivants à l'aide de filets, dont la vocation originelle était de repeupler les massifs forestiers français à partir de la souche de Chambord. Le domaine a ainsi contribué pendant les 3 ans du programme COSTO à la mise en place d'un dispositif expérimental pour le suivi des perturbations du sol par le sanglier, l'aide à la mise en place d'expérimentations sur la dispersion des graines pendant les panotages et les tirs de sélection, ou encore une étude sur la prédation de la faune nicheuse au sol. Voilà, je vous souhaite un agréable et fructueux séjour à Chambord, et je cède maintenant la parole à Benoît Pierre, directeur d'Intelligence des patrimoines.
Merci Étienne. Merci à tous. Bonjour. Merci d'être ici aussi nombreux. Je suis très très heureux d'introduire ce colloque qui est le colloque final pour le projet COSTO, qui est assez emblématique, très emblématique même de ce que l'on fait au sein de l'Intelligence des patrimoines. Tu l'as mentionné, cette interdisciplinarité, cette pluridisciplinarité qui nous caractérise. Si je présente rapidement ce programme qui nous anime maintenant depuis 4-5 ans, puisqu'on l'avait défini en 2012-2013, c'est vraiment la possibilité pour nous de se faire rencontrer ces disciplines entre elles. Et si on regarde dans les 5 chantiers que nous avons aujourd'hui de fabrique, eh bien cette interdisciplinarité elle est réalisée. Elle est réalisée au sein des différents projets, et COSTO en est un exemple. Aujourd'hui, sur cette étude sur la forêt, vous avez non seulement les sciences du vivant, vous avez également de la sociologie et de l'histoire. Et ça, on le retrouve dans tous ces chantiers. Donc, les chantiers, vous les connaissez. Le premier auquel appartient donc COSTO, c'est le chantier Chambord-Château. C'est vraiment à partir de ce chantier que nous avons mis en place ce modèle assez original, qui a, on peut le dire, peu d'équivalent aujourd'hui en France, voire en Europe. Et donc nous avons ce chantier-là, nous avons d'autres chantiers sur la gastronomie, santé et bien-être, sur la vigne et le vin, sur Loire et fleuve, et également sur les monuments Parc des Jardins. Et à chaque fois, c'est la même dynamique. Aujourd'hui, donc COSTO, c'est un projet parmi 131 projets. On a fait le dernier listing des projets financés, 131 projets financés aujourd'hui. Donc ce qui veut dire pour nous, aussi avec l'équipe Intelligence des patrimoines qui suit un peu tout cela de près, voit également et permet aux chercheurs d'aller aussi au-delà lorsqu'ils déposent ces projets, c'est pour nous aussi la possibilité désormais de faire remonter toutes ces données que nous collectons et que nous sommes en train de structurer avec l'aide bien sûr des chercheurs, c'est eux qui fabriquent les bases de données, mais de pouvoir les mettre dans une plateforme de données hétérogène nous permettant à terme de croiser ces différents projets les uns avec les autres. Bien sûr, pérenniser l'ensemble de ces données, car c'est bien cela aussi notre objectif, ce sont des fonds publics. Donc il faut pouvoir les collecter, les structurer et les pérenniser, et permettant aussi avec ces données de produire également de nouvelles données, et de mettre ces données à la disposition du public à partir du moment, de tout le monde, des chercheurs bien entendu, à partir du moment où ces données sont disponibles. Sans bien sûr toucher à la production des différents projets, mais simplement permettre de les collecter, de les regrouper. Quand on regarde l'ensemble de ces 131 projets aujourd'hui financés, on a fait le décompte pour un très gros projet que nous avons déposé dans le domaine de la formation. On constate plusieurs choses. D'abord qu'il y a une excellente répartition entre patrimoine culturel et patrimoine naturel, 50-50. Voilà. Quand on va maintenant dans les différents projets, comme je l'ai dit pour Costaud, vous avez toujours plutôt donc, soit le patrimoine culturel, soit le patrimoine naturel qui a pris le leadership dans la fabrique, mais nous trouvons à chaque fois, pour chaque projet, des éléments. Donc, quand c'est du patrimoine culturel, des éléments du patrimoine naturel, quand c'est du patrimoine naturel, des éléments du patrimoine culturel. Si je prends l'ensemble des disciplines impliquées, c'est-à-dire toutes les disciplines de la fabrique pour les patrimoines culturels et naturels, pratiquement tous les secteurs scientifiques sont représentés. On a fait aussi des comptes, à la fois en termes de laboratoire, en termes d'implication chercheurs. C'est pareil, c'est une très très bonne ventilation des cinq grands secteurs scientifiques, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences du vivant, les sciences du digital, les sciences des matériaux. Très bonne ventilation. Donc ça veut dire que pour nous, ce sont non seulement des résultats qui sont des résultats d'interdisciplinarité, mais aussi, et c'était l'enjeu au départ de ce programme, c'est que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Donc je sais que vous attendez particulièrement, vous, des résultats là, sur la fin du programme, mais du projet, mais pour nous, c'est la dynamique aussi qui compte, et Costaud reflète totalement, en fait, cette dynamique que nous avons lancée. Donc nous en sommes très, très heureux aujourd'hui, très heureux de ce que l'on peut considérer comme une réussite. Ce n'est pas de tout repos tous les jours, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est très bien identifié sur la carte de la fabrique scientifique, sur la carte aussi de l'innovation, et on sait à quel point ça compte aussi pour notre système académique, et également dans sa relation aussi aux partenaires. J'ai mentionné que vous avez un programme qui est un programme scientifique, vous avez aussi un programme d'établissement sur plusieurs années. L'enjeu était aussi pour nous, non seulement de nous entendre, mais d'arriver à faire ce lien avec un domaine aussi prestigieux que le domaine national de Chambord. Voilà, on a réussi ici, ça encore une fois a été notre modèle d'application, nous avons pu comme ça le décliner sur d'autres chantiers, et nous réussissons maintenant avec d'autres partenaires sur d'autres fronts de la science, et nous permettant aussi de faire reculer aussi les frontières de la science, c'est bien ça, grâce à cette incubation interdisciplinaire. Voilà, je vous remercie de votre attention, merci aussi à Christophe pour cette organisation, pour tout le travail qui a été fait pendant 3 ans, et puis tous les résultats, et puis très bon colloque à vous tous. Merci.
Fonctionnement et au service rendu à Chambord. Donc, dans l'idée, c'était un projet qui associait plusieurs disciplines pour essayer de comprendre le rôle des ongulés sauvages, donc cerfs et sangliers principalement, comme des acteurs dynamiques des socio-écosystèmes contemporains. Donc, je ne sais pas si c'est des gros mots, tout ça, mais l'idée, c'est qu'on avait 3 volets. Il y avait un volet qui était plutôt sur l'histoire du paysage, pour essayer de comprendre comment les usages et la place qui était dédiée à la chasse, notamment du cerf et du sanglier, ont façonné les paysages que vous allez pouvoir découvrir sur le domaine de Chambord. Il y avait un deuxième volet qui était plus écologique sur les processus qui ont lieu à l'échelle du paysage. Donc, Étienne a nommé notamment les approches sur la dispersion des plantes par les ongulés sauvages. Il y a la partie sur le fonctionnement des sols qui va être présentée demain après-midi, avec l'ensemble des résultats costauds, et que vous allez pouvoir visiter ce soir avec Séraphine qui est devant, voir ce dispositif en place, en réel. Donc il y a plusieurs éléments, et notamment aussi les aspects sur la prédation des oiseaux. Et puis il y a un dernier volet, plus sciences humaines, sur le lien entre le château, le tourisme et la présence du cerf. Comment en fait Chambord profite de la présence du cerf pour attirer les gens qui ne sont pas que intéressés par le château. Est-ce que c'est un élément en fait qui va permettre aux gens de venir, qui va les intéresser à venir au château? Est-ce qu'il utilise cette image-là du cerf comme un élément vraiment prestigieux aussi en dehors du château? Donc c'était ces éléments-là qu'on a essayé de regarder, de comprendre et d'associer en fait ces trois volets dans le projet Costofo. Donc ça sera présenté à la fin du colloque, demain après-midi. Les partenaires de ce projet, donc il y a le Muséum National d'Histoire Naturelle avec la réserve de la Haute-Touche qui sont basées donc, dans la Brenne. Il y a l'INSA Centre-Val de Loire, ancienne école nationale du paysage. Il y a l'Université de Tours avec l'unité mixte de recherche CITER. Il y a l'Université de Poitiers pour un membre à moitié à Tours et à moitié à Poitiers. Il y a le domaine national de Chambord, bien sûr. Et puis il y a l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Qui mène son projet à côté, mais avec qui on a collaboré également sur le projet Posto. Je tenais à remercier aussi au démarrage de cette conférence les financeurs qui nous ont permis à la fois de tenir ce colloque, mais aussi de réaliser ce projet Posto. Donc il y a la région Centre Val de Loire, le réseau Midi, Intelligence des patrimoines, l'INSA Centre Val de Loire, la zone Atelier Loire, le domaine national de Chambord qui nous met à disposition ces merveilleux locaux pour profiter pleinement des présentations qui pourront être partagées avec vous. Je tenais aussi à remercier l'ensemble du comité d'organisation. Donc il y a Amélie Robert, Sylvie Servin, Séraphine Rédier, Alexia Soussan qui est à l'accueil, là, qui attend encore les derniers arrivants, Géraldine Patier, aussi là-bas, Lolita Voisin et Jean-Louis Lingué. On remercie aussi Jean-Philippe Corbellini pour la prestation visuelle qui va permettre de capter ceux qui ont accepté d'être conservés dans le marbre pour le futur. On remercie aussi les éditions Poyer avec M. Bellet qui est à l'arrière de la salle et qui nous présente un certain nombre de livres en lien avec les écosystèmes forestiers et la biodiversité, pour ceux qui intéresseraient. On remercie la revue forestière française et la revue Science, Eau et Territoire, Virstea, qui va permettre en fait de publier un numéro spécial dédié à ce colloque, à la suite, avec les présentations de ceux qui souhaitent contribuer justement à ce numéro spécial, sachant qu'il y aura un processus de révision des articles, hein, c'est pas gagnant tout de suite, mais bon, c'est plutôt positif. On remercie Marie Balsinger pour l'image du colloque. Et on remercie les participants et les conférenciers qui ont, par leur intérêt, ont rendu possible cet événement. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à la première intervenante.